France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Anne Fauquemberg. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Il était le compagnon de route de Martin Luther King et il avait participé aux épisodes les plus marquants du combat pour l'égalité raciale aux États-Unis. Le pasteur Jesse Jackson est mort ce matin à l'âge de 84 ans. Il aura notamment ouvert la voie à l'élection du premier président noir des États-Unis. Son portrait sera signé Omar Waman au début de ce journal. L'UNICEF publie un rapport très inquiétant sur la scolarité des enfants ukrainiens. Plus d'un tiers d'entre eux ont été déplacés depuis le début de la guerre en Ukraine ou comme réfugiés à l'étranger. Précision à suivre d'Hakim Kasmi.
L'ONU, comme plusieurs pays arabes et l'Union européenne, dénonce l'adoption par Israël de nouvelles mesures foncières renforçant son contrôle sur la Cisjordanie. Nous serons avec notre correspondant Thibault Lefèvre dans un instant.
En France, Gisèle Pellicot raconte pour la première fois dans un livre les viols organisés par son ex-mari et le procès historique de Mazan. Quelles répercussions de cette affaire au niveau international ? Nous serons en direct avec la sociologue Véronique Le Goaziou. Enfin, débat politique toujours extrêmement sensible après la mort de Quentin Derenck, alors que plusieurs suspects ont été identifiés et seraient bien liés à l'ultra-gauche, selon plusieurs médias. Mais avant de dérouler les titres du journal, l'Institut du Monde Arabe à Paris tourne définitivement la page. Jack Lang, qui avait été contraint de démissionner début février pour ses liens avec le financier américain Epstein. Et c'est une diplomate, Anne-Claire Legendre, proche conseillère du président Macron, qui a été désignée ce matin pour prendre la tête de cette institution. Sa personnalité a fait l'unanimité parmi les membres du conseil d'administration de l'IMA. Bonjour Christian Chenot.
Bonjour.
C'est le retour d'un profil de diplomate pour cette institution hybride, à la fois lieu culturel et instrument diplomatique, mais pour la première fois, c'est aussi une femme qui a été choisie.
Oui, pendant longtemps, l'IMA a servi à recaser des hommes politiques à la recherche d'un point de chute ou d'une retraite dorée, d'Yves Guéna en passant par Edgar Pisani, Camille Cabana ou encore Renaud Muselier jusqu'à Jack Lang. Le profil d'Anne-Claire Legendre rompt avec celui de ses prédécesseurs à 46 ans. C'est une diplomate chevronnée qui prend les rênes de l'IMA. C'est un modèle pour moi, me confie récemment une jeune diplomate du Quai d'Orsay, admirative de son parcours arabisante. Anne-Claire Legendre a été la première et plus jeune femme consul de France à New York en 2016. Elle a été brièvement en poste comme ambassadrice au Koweït avant d'incarner le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Mais c'est surtout à l'Élysée qu'Anne-Claire Legendre a pris de l'envergure depuis qu'elle occupe le poste de conseillère pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient fin 2023 auprès d'Emmanuel Macron. C'est elle qui a poussé au sein de la cellule diplomatique de l'Élysée en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU par la France. Au printemps dernier, en pleine crise avec l'Algérie, le chef de l'État l'avait envoyé auprès de son homologue Abdelmadjid Tebboune pour tenter d'apaiser des tensions entre les deux pays. Enfin, la nouvelle présidente de l'IMA est aussi familière du Liban, pays clé pour la diplomatie française au Levant.
Merci Christian Chenot pour vos précisions. Il était donc le compagnon de route de Martin Luther King, orateur talentueux. Jesse Jackson est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Le pasteur noir s'est éteint paisiblement, entouré des siens, après une longue bataille contre la maladie de Parkinson, a annoncé sa famille sur Instagram. Jesse Jackson avait participé à certains des épisodes les plus marquants du combat pour l'égalité raciale aux États-Unis. Son portrait est signé Omar Waman.
Jesse Jackson est né en 1941 dans l'État ségrégationniste de la Caroline du Sud. Leader du mouvement américain pour les droits civiques depuis les années 60, il défile aux côtés de Martin Luther King, participe à la collecte de fonds pour la cause et devient l'Afro-américain le plus célèbre à se présenter à la présidence des États-Unis en 1984 et 1988. Mais il échoue à deux reprises. Il ne parvient pas à rassembler un nombre suffisant de suffrages pour décrocher l'investiture du Parti démocrate, jugé trop progressiste. Mais il ouvre la voie à une plus grande représentation des minorités dans la vie politique, reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. Il est également distingué en France en 2021, où il reçoit la Légion d'honneur. Vous êtes notre frère. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron lui a remis la plus haute distinction française, avant de rappeler que Jesse Jackson avait négocié la libération d'otages de plusieurs pays pendant la première guerre du Golfe en 1990.
Omar Waman. À Genève, la nouvelle session de pourparlers entre négociateurs russes, ukrainiens et américains pour trouver une issue à la guerre en Ukraine semble bien mal partie. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir recensé pas moins de 29 missiles et 396 drones lancés par Moscou la nuit dernière. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères accuse la Russie de mépriser les efforts de paix. L'Ukraine, par ailleurs toujours sous pression américaine, Kiev ferait mieux de venir à la table des discussions et rapidement, a répété hier hier soir le président Trump qui avait appelé la semaine dernière Volodymyr Zelensky à se bouger. Dans ce contexte, l'UNICEF, association de défense du droit des enfants, publie un rapport très inquiétant. Plus d'un tiers des enfants ukrainiens, soit un peu plus de 2 500 000, sont toujours déplacés à l'aube de cette cinquième année de guerre avec la Russie, déplacés dans d'autres villes en Ukraine ou alors ils sont réfugiés à l'étranger. Et conséquence, Hakim Kasmi, ces enfants subissent de grandes difficultés pour poursuivre leur scolarité.
Depuis le début de la guerre, ce sont pas moins de 1700 écoles qui ont été détruites. Et avec l'intensification des combats, la situation s'est même aggravée ces derniers mois. Si bien que le nombre d'enfants tués en Ukraine a augmenté de 10% l'année dernière. Résultat, un élève sur trois doit suivre sa scolarité en distanciel, comme nous l'explique Baptiste Chapuis, directeur du pôle plaidoyer à l'UNICEF France.
La plupart des enfants, notamment situés à l'est de l'Ukraine, proche de la ligne de front, n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école parce que c'est beaucoup trop dangereux. Ce qui signifie que la plupart des enfants restent chez eux avec des cours en distanciel quand ils ont accès à Internet et sont complètement déscolarisés. Chaque pan de leur vie sociale est déstructuré. J'ai moi-même rencontré des enfants ukrainiens qui n'avaient pas vu leurs camarades d'école alors qu'ils habitaient à 10 minutes à pied, et ce depuis plusieurs années.
Avec la guerre depuis 4 ans, les élèves ukrainiens ont également accumulé beaucoup de retard. Il est donc urgent de mettre en place un plan de rattrapage scolaire, estime Baptiste Chapuis.
En fait, les enfants ont enchaîné le Covid et 4 ans de bombardement partout en Ukraine, en particulier proche de la ligne de front et à l'est. Donc renforcer l'apprentissage du rattrapage en formant les enseignants à identifier les lacunes d'apprentissage, à avoir accès à un apprentissage parfois numérique, à former les enseignants en fonction, c'est vraiment la priorité pour que l'avenir de l'Ukraine s'écrive avec ses enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Enfin, chaque jour, plus de 2 enfants sont tués ou blessés en Ukraine.
Le compte-rendu d'Hakim Kasmi. L'ONU, comme plusieurs pays arabes et l'Union européenne, dénonce l'adoption par Israël de nouvelles mesures foncières, renforçant son contrôle sur la Cisjordanie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé hier Israël à revenir immédiatement sur ces mesures. Une semaine après avoir approuvé ce texte, qui facilite donc les achats de terres par les colons, le gouvernement israélien a décidé dimanche d'accélérer le processus d'enregistrement foncier en Cisjordanie, occupé par Israël depuis 1967. Les précisions à Jérusalem de Thibault Lefebvre.
Pour aller vite, l'État israélien va pouvoir acquérir une partie du territoire souverain palestinien. Ça concerne un peu moins de 10% de la Cisjordanie occupée. Et il dispose pour ça d'un budget d'un peu plus de 65 millions d'euros. Il se donne 5 ans pour s'accaparer ces terres. Ça, ce sont les modalités de cette nouvelle mesure de la politique d'occupation israélienne. Mais derrière cette décision, il y a surtout une fuite en avant du gouvernement le plus à l'extrême droite de l'histoire d'Israël. Pour la première fois depuis le début de la colonisation en 1967, les autorités vont construire à Jérusalem un nouveau quartier sur des terres souveraines palestiniennes, ce qui est évidemment contraire au droit international. Autre record, le nombre de colonies créées, 54 en 2025, c'est 10 fois plus qu'en 2024. Et la conséquence, c'est l'explosion des violences de colons et les déplacements de forces de populations palestiniennes. Et puis cette politique d'annexion de facto d'une Cisjordanie désormais morcelée s'accompagne d'une volonté d'affaiblir l'autorité palestinienne. Le gouvernement israélien retient les ressources financières dues aux Palestiniens selon les accords d'Oslo de 1993. L'autorité palestinienne a besoin de 270 millions d'euros par an pour fonctionner. Elle ne dispose aujourd'hui que d'un peu plus de 100 millions. Conséquence, les fonctionnaires ne touchent que la moitié de leur salaire, le chômage explose et la colère monte dans une population asphyxiée.
Thibault Lefebvre, le correspondant permanent de France Culture en Israël. L'autorité irlandaise de protection des données ouvre une enquête européenne contre le réseau social X du milliardaire américain Elon Musk. Cette investigation concerne les hypertrucages à caractère sexuel générés via l'intelligence artificielle de la plateforme. Et puis, l'UE ouvre également une enquête contre Chine dans l'affaire des poupées sexuelles d'apparence enfantine qui étaient vendues sur son site. Enfin, avant de refermer cette page internationale, notez qu'aux États-Unis, le maire de Los Angeles demande la démission du patron des Jeux Olympiques 2028, toujours en lien avec l'affaire Epstein.
Plusieurs suspects auraient été identifiés dans l'enquête sur la mort de Quentin de Ranque.
Oui, et ces suspects seraient bien liés à l'ultra-gauche, selon des sources policières contactées par l'agence France-Presse. L'homicide volontaire, comme l'a qualifié hier la justice, à l'encontre du militant identitaire Quentin de Ranque la semaine dernière à Lyon, continue également d'occuper le débat public. LFI, par la voix de son coordinateur national Manuel Bompard, a assuré ce matin qu'il n'y a aucun lien entre son parti et la mort du jeune militant nationaliste, tandis que le candidat à la mairie de Marseille, Franck Alizio, affirme, je cite, que l'extrême gauche a tué. Un débat évidemment encore plus marqué au sein même de la ville de Lyon. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Anne.
Sans vouloir entrer dans la polémique, Jean-Michel Aulas, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, candidat à la mairie, propose davantage de caméras et d'agents dans les rues pour éviter un nouveau drame.
Oui, le candidat soutenu par les Républicains et par le camp macroniste met effectivement l'accent sur le volet sécuritaire de son programme, proposant de renforcer le nombre de policiers municipaux, de doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance dans les rues de la ville. Et puis, il met en demeure l'actuel maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, de clarifier sa position vis-à-vis de la France insoumise dans la perspective du second tour. Jean-Michel Aulas était ce matin sur France Inter.
Quand je vois des accords entre le maire sortant et LFI, je dis il faut faire attention parce que en ce moment, il semble que du côté de l'ultra-gauche, il y ait des excès qui aboutissent à ce genre de drame.
Donc vous demandez à Grégory Doucet de clarifier, de dire qu'il n'y aura aucune alliance avec la France insoumise ?
Alors, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il attendra la fin du premier tour pour prendre position et personnellement, je ne suis pas d'accord.
Grégory Doucet avait quant à lui répondu par anticipation la veille au cours d'une conférence de presse à cette injonction qui lui est faite de prendre ses distances avec les insoumis. Il refuse à ce stade de tirer des conclusions politiques à ce qui s'est passé.
Je crois que le respect de l'état de droit nous oblige à ne jeter l'opprobre ni sur tel ou tel autre. Le procureur de la République nous a dit où en était l'enquête. Il n'a mentionné aucun groupe politique, aucune personnalité. Et donc, ne jetons pas de l'huile sur le feu. Ne nous précipitons pas sur les amalgames. Viendra le temps où nous pourrons tirer les conclusions sur la base de ce que la justice nous dira.
L'actuel maire de Lyon est depuis plusieurs mois déjà largement devancé dans les enquêtes d'opinion par l'ancien président du club de football, l'Olympique Lyonnais. Grégory Doucet est crédité d'environ 30% d'intention de vote contre 44% pour Jean-Michel Aulas. Les autres candidats, Alexandre Dupalet pour le Rassemblement National et Anaïs Belouassa-Chérifi pour la France Insoumise, sont actuellement crédités de moins de 10%, un score qui ne leur permettrait pas de se qualifier pour le second tour. Et puis sont également candidats Georges Kepenekian, Nathalie Perrin-Gilbert, Nizar Touhiri et Baptiste Jacquet.
Explication Stéphane Robert. Le président Macron est en Inde aujourd'hui. Il retrouve le Premier ministre Narendra Modi à Bombay, capitale économique du pays. Les deux chefs d'État vont renforcer leur partenariat stratégique bilatéral et les échanges s'annoncent sous les meilleurs auspices côté français après la confirmation par l'Inde de son intention d'acheter 114 avions de combat Rafale supplémentaires. C'est sans doute l'un des livres les plus attendus de cette année. Un an après le procès des viols de Mazan, Gisèle Pellicot raconte pour la première fois dans un récit à la première personne les viols organisés par son ex-mari et le procès aussi historique d'Avignon. Événement qui a fait d'elle une figure de la lutte contre les violences sexuelles. Mais quelles ont été les conséquences de cette affaire en France et au-delà à l'international? Pour en parler, nous sommes avec Véronique Le Goaziou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au laboratoire méditerranéen de sociologie au CNRS et à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Avant de revenir sur les conséquences de toute cette affaire un an après le procès, un mot sur le livre de Gisèle Pellicot que Ma joie demeure publié chez Flammarion. Quel regard portez-vous sur la façon dont Gisèle Pellicot témoigne aujourd'hui ?
Alors, je n'ai pas lu le livre, mais les extraits que j'ai pu en lire et des interviews qui ont été faites d'elle, avec elle, montrent, comme c'était déjà le cas lors du procès de son époux et des autres co-accusés, que c'est une femme exemplaire. Alors, exemplaire, elle l'a été durant tout le procès d'Avignon, par sa tenue, par sa posture et par la dignité qui fut la sienne. C'est une femme exemplaire aussi parce que c'est une femme ordinaire, Madame Pellicot. Elle n'a cessé de le dire. Elle est épouse, elle est mère, elle est grand-mère. Elle a eu une vie ordinaire, voilà. Ce qui fait que sans doute beaucoup de personnes ont pu se reconnaître en elle ou s'identifier à elle. Et puis, c'est une femme aussi exemplaire parce que elle a fait de ce procès, ou elle a contribué à faire de ce procès, le procès de tous les viols, le procès des violences sexuelles de façon générale, et alors, en dépassant son cas.
Bien sûr. Et alors, un an après, diriez-vous que cette affaire a changé les choses à l'échelle internationale du point de vue des politiques publiques, comme plus largement dans les mentalités ?
Difficile de le dire. Il est possible, probable, mais seul l'avenir pourra le confirmer, que cette affaire, et donc elle, Madame Pellicot, a sans doute été un accélérateur. Alors un accélérateur sur plusieurs choses, vraisemblablement sur la question de la soumission chimique, qui était très peu connue jusqu'à présent, qui était un peu dans l'ombre, une façon de commettre des viols que l'on ignorait ou que l'on connaissait mal. Un accélérateur aussi dans la compréhension du fait que les violences sexuelles sont commises dans un cadre ordinaire et en premier lieu dans l'espace familial, en l'occurrence ici conjugal, comme c'est le cas de Madame Pellicot. Et sans doute aussi a-t-elle contribué, ou ce procès a-t-il contribué à accélérer la question ou la prise de conscience ou la mise en lumière de la question du consentement. Et du coup, son introduction dans la loi depuis octobre 2025.
Alors, dans votre livre de 2019, « Viol, que fait la justice ?», vous partiez du constat selon lequel, je vous cite, « la victime est la grande oubliée du procès pénal ». Cette affirmation s'applique-t-elle aussi pour le procès des viols de Mazan, alors que Gisèle Pellicot semble avoir pris un rôle central au cours de ce procès, au moins au regard du débat public ?
Alors, ça vient effectivement contredire cette l'assertion qui était la mienne, qui, je pense, reste valable. Mais parce que, au-delà de tous les aspects ordinaires de cette affaire que je viens de dénoncer, ce fut aussi une affaire très particulière, très singulière. Et la singularité majeure de ce dossier, c'est qu'on avait les preuves du viol. Ce qui est rarissime, en fait, quand on a les preuves du viol. Et non seulement on a eu les preuves du viol, puisque tout ça a été filmé par monsieur lui-même, par l'accusé principal, mais en plus, ces preuves ont été rendues publiques, puisque Madame Pellicot a décidé a accepté, en tout cas, de faire visionner les scènes durant lesquelles elle a été violée. Donc, c'est à la fois une affaire très très ordinaire par toute une série d'aspects que j'ai énoncés, et en même temps, quand on la regarde par rapport à l'ensemble, au tout venant, si j'ose dire, des affaires de viol ou des violences sexuelles, elle est exceptionnelle, puisque les preuves du viol ont été apportées et elles ont été présentées dans l'espace public, d'une oui. certaine façon.
Dernière question, Madame Le Goasiou. En France, comme au Canada, de récentes enquêtes de presse ont montré qu'une annonce semblable à celle qu'avait postée Dominique Pellicot attire encore les réponses de plusieurs hommes prêts à coucher avec une femme inconsciente sur proposition de son mari. Comment expliquez-vous l'écart qui subsiste entre l'extrême gravité du viol dans les textes de loi, sa réprobation sociale et le fait qu'il demeure encore aussi répandu ?
Parce qu'on ne change pas les choses comme ça. Parce que les violences sexuelles existent depuis la nuit des temps, parce qu'elles sont le fruit de postures, de comportements, de représentations, de rapports de pouvoir, de rapports de force, de rapports de genre qui ont été très inégaux pendant des siècles, voire des millénaires, et que même si cette l'affaire Pellicot a contribué, aura sans doute contribué à ce qu'on chemine doucement vers une culture du consentement, on y chemine doucement. Voilà, on ne peut pas changer comme ça, même à l'aune d'une affaire aussi retentissante et aussi terrible, des mentalités, des façons d'être, des façons de considérer les relations entre les hommes et les femmes. Donc je suis pas très étonnée effectivement qu'un certain nombre de personnes, notamment des hommes, estiment qu'ils peuvent encore librement, si j'ose dire, s'en prendre au corps des femmes.
Merci.
Mais ça va changer, ça mettra du temps, mais ça va changer.
Merci pour cette note d'optimisme. Merci Véronique Le Goasiou pour votre analyse et merci à Loïse Guérin pour la préparation. C'est un mouvement citoyen qui milite pour la préservation du foncier agricole et l'installation de paysans pour faire face à l'agro-industrie. L'ONG Terre de Liens publie aujourd'hui un rapport intitulé « Agriculture et alimentation, une fin de démocratie » et qui dresse le bilan de l'état des terres agricoles en France. Principal enseignement, 7 fermes sur 10 sont considérées comme intensives et commercialisent exclusivement leur production vers l'international. Ce type d'agriculture est dénoncée par l'ONG car elle crée des territoires hyper spécialisés et une dépendance alimentaire aux autres régions. Écoutez ce qu'en dit Colline Sauvran, l'autrice de ce rapport.
Il y a une partie des territoires français, et notamment, on va dire, la moitié nord de la France, qui est particulièrement spécialisée parce que ce sont des terres agricoles particulièrement riches qui ont été intégrées dans cette dynamique d'industrialisation de l'agriculture et de notre alimentation, aussi dans une perspective d'exportation. Et donc, sur ces territoires, eh bien, finalement, la spécialisation fait que ces territoires ne sont plus à même de produire l'alimentation de leurs habitants. On prend l'exemple de la Mayenne, où le géant laitier Lactalis à son siège. Alors effectivement, la Mayenne peut produire deux fois plus de produits laitiers que n'en a besoin la population mayennaise. Mais par contre, la Mayenne est complètement déficitaire sur les légumes et les fruits dont aurait besoin sa population. Cette spécialisation fait qu'il y a moins d'alimentation qui est produite de manière diversifiée pour la population. On va avoir par exemple ce qu'on appelle les déserts de circuit court. Dans certains territoires très agricoles, ultra spécialisés, les habitants n'ont pas accès à des produits locaux de qualité comme des fruits, légumes, des fromages ou de la viande, parce que toutes les terres sont finalement destinées à des filières longues, industrialisées, voire destinées à l'exportation.
Propos recueillis par Lola Salamand. La météo avec toujours une alerte rouge pour crue maintenue au moins jusqu'à demain dans le Maine-et-Loire, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Il fera cet après-midi de 7 à 13 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Nina Malray. Prochain journal 18h, ça sera avec Mathieu Laurent.